Anastasia Hortensio, vous êtes conteuse. C'est vous dont la voix lit et compte tous les textes que l'on peut entendre dans le livre. Et j'aimerais d'abord vous demander comment vous travaillez, comment travaille une conteuse concrètement sur un texte ou sur un conte.
Alors, sur un conte, c'est très simple. Il faut d'abord trouver le conte qui nous plaît, qui me plaît. Quand il y a un écho, je me dis, tiens, ça, j'aimerais bien le raconter. Je lis le texte et je le reprends à ma façon. Je regarde quels sont les éléments importants à dire, la structure. Enfin, je peux complètement changer la structure du conte pour amener un peu de suspense, de l'émotion, du rire. Enfin, on essaie de rythmer tout cela. Voilà, et puis je le dis avant de l'écrire. Je dis le conte oralement pour moi, je le dis une fois, je le dis deux fois, je le dis trois fois, le temps que il s'installe. Et ensuite, il y a une autre étape qui est celle de la formulation. Je cherche toujours à simplifier le vocabulaire, je dirais. Et je cherche aussi à introduire des expressions courantes qui parlent à notre société. Et donc, je les introduis dans le texte, enfin dans mon récit. Comme par exemple, je me souviens, j'ai travaillé pendant très longtemps sur Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, c'est le nain tracassin. À un moment, le personnage, c'est une jeune meunière qui doit filer de la paille et en faire du fil d'or. C'est, voilà, pour bien comprendre la détresse dans laquelle elle se trouvait au moment où elle devait fabriquer ce fil d'or. Elle devait le filer, elle devait le fabriquer. Il fallait faire comprendre que ce n'était pas son métier, elle était meunière, elle n'était pas tisserande. Elle devait filer et en plus, elle devait fabriquer de l'or, quelque chose de magique. Voilà, j'ai trouvé à un moment donné que la meilleure expression à dire à ce moment-là, c'est elle s'est rendue compte que sa vie ne tenait qu'à un fil d'or. Voilà, et je casse la paille qui se trouvait dans mes mains. Et là, on comprend immédiatement tout le désespoir de la jeune femme.
Et donc, cet exemple, ça montre aussi que vous travaillez la voix, peut-être vous pouvez nous expliquer un peu comment, mais aussi que vous travaillez les gestes. Vous pourriez nous expliquer un petit peu?
Oui, alors justement, si on prend ce conte, il est... Les jeunes aujourd'hui ne savent pas ce que c'est qu'un rouet. Donc, je faisais les gestes pour leur faire comprendre ce qu'est le rouet. D'une manière générale, lorsque je prépare un conte, d'abord, ce sont les mots que je cherche. Parce que quand on travaille sur un conte, ce qui nous vient, ce sont les images. Et ce sont les images qui suscitent les mots à dire après. Donc les mots viennent dans un deuxième temps. Même si c'est un art de la parole, c'est quand même les images qui influent sur la parole. Quand je prépare un conte, les paroles sont arrivées, le conte est là, il est prêt, et ensuite il faut se le mettre en bouche pour pouvoir le restituer sans problème, enfin, sans qu'il y ait des ruptures, des cassures. Et dans ce cas, il faut vraiment avoir en tête tout l'espace scénique dans lequel on va évoluer, parce que ce n'est pas que la parole. Souvent, quand on est conteur, nous nous trouvons sur scène. La scène est quand même un cube, c'est un grand espace. Il faut qu'on puisse évoluer dans cet espace, et c'est là que notre travail ressemble un peu à celui du comédien, parce que nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre de la scène, nous devons l'habiter. Mais cette habitation que nous transmettons ensuite dans la réalité, elle se trouve dans notre cerveau. Si nous allons à droite, c'est parce que nous avons vu que ce palais se trouve à droite. Si nous allons à gauche, c'est que c'est là que se trouve la rivière. Même si le public ne la voit pas, nous la voyons. tout est très scénique. C'est un film qui se déroule avec le décor. Et c'est pour ça que souvent, il peut y avoir des interprétations, des improvisations quand on est sur scène, parce que tout est tellement clair qu'à un moment, on a envie de décrire telle chose qui se passe. Au niveau des gestes, ils viennent assez spontanément. Quand la parole est juste, le geste est juste. Par contre, si, par exemple, on doit avoir des répétitions, comme dans Rumpelstiltskin, voilà, je prends ce conte en exemple, à un moment, il y a le petit nain qui arrive, le nain tracassin, et il doit travailler à la place de la jeune fille. Il s'assoit sur le rouet, il fait des gestes, et bien comme ce sont des gestes répétitifs, j'ai une espèce d'automatisme qui revient à chaque fois. Mais là, effectivement, ces gestes-là sont étudiés, ils sont rythmés, ils sont en musicalité.
Alors, ça m'amène à ma dernière question sur le travail de la conteuse. Il vous arrive de chanter, on l'a vu dans un enregistrement, et il arrive aussi que vous glissiez dans un conte une expression d'une autre langue. Alors, quel est le rôle de ce chant, de cette musique, et comment viennent-ils ?
Il y a deux façons. Le chant peut être improvisé parce qu'il arrive un moment dans le conte où il y a des choses qui se passent avec le public. Et ce chant peut être improvisé parce qu'il décrit un moment très particulier qui se passe dans l'histoire, mais aussi avec le public. Et ce chant, d'un seul coup, relie le conteur au public. Il les met dans la même sphère. Parfois, il est aussi prévu. J'ai des contes où il est prévu que le chant se trouve au début, qu'il se trouve à l'intérieur du récit et qu'il revienne à la fin. Il a une signification. Il peut aussi bien raccourcir le temps entre deux épisodes. Voilà, au lieu de dire le temps est passé, etc. Je vais chanter un petit refrain. Le deuxième se trouvera peut-être après un deuxième épisode. Le troisième viendra à la fin, et à la fin, peut-être, je chanterai la chanson en entier. Ça, c'est selon. Et la fonction du langage autre que celui du récit, c'est-à-dire une autre langue, c'est que si ce récit est un récit d'un pays dont je connais la langue, eh bien, je trouve toujours intéressant que l'on entende la musicalité de cette langue.